bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans les studios de Manosque où j'accueille Convergence Urgence Santé Sud 04. Donc monsieur Fellaret et monsieur Risaletti, pardon. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse un petit peu présenter votre structure, donc qui est née d'un collectif dans la santé, peut-être, monsieur Pellaré.
L'origine de la convergence, c'est le prolongement de choses qu'on a déjà engagées depuis pas mal d'années, à savoir le collectif Réa depuis une dizaine d'années, pour obtenir un service de réanimation dans l'hôpital de Manosque, qu'on n'a toujours pas, malgré le fait qu'on perde 20 vies par an. Comme les problèmes s'élargissaient dans le secteur de l'accès à la santé et aux soins sur notre territoire, on a décidé de créer un collectif Santé Haute-Provence qui, lui, prend en compte la totalité des problématiques que l'on rencontre en matière de soins, d'accès à la santé, de continuité de la permanence des soins, des services nécessaires dans l'hôpital de Manosque, donc sur le bassin de santé de l'hôpital de Manosque qui, sur 168 000, enfin je me trompe peut-être de quelques centaines ou milliers d'habitants, sur les 168 000 habitants que comporte le département des Alpes de Haute-Provence, il y en a 119 000 qui sont sur le bassin de l'hôpital de Manosque. Et ça représente 73 communes qui vont de la frontière avec le Vaucluse jusqu'à 8 communes du Var. Voilà. Donc cette origine du collectif Santé Haute-Provence et le prolongement et l'élargissement de ces actions. Et comme on s'est dit quand même, il faut qu'on élargisse aussi la pression et ceux qui peuvent intervenir et agir pour améliorer cet accès à la santé et aux soins. On a proposé à différents acteurs, qui sont des collectifs, des partis politiques, des organisations syndicales, des associations, d'élargir le périmètre du collectif Santé Haute-Provence à une convergence urgence santé Sud 04. Parce que maintenant, toujours, on ne se préoccupe que du Sud 04. Ça ne veut pas dire qu'on se fout de ce qui se passe dans le nord du 04, mais c'est qu'on est resté sur notre périmètre géographique. Si demain, il faut qu'on le fasse parce qu'on a des sollicitations pour travailler sur l'ensemble du 04, on le fera. Mais pour l'instant, on est Sud 04.
Vous disiez que vous étiez donc à la base, donc c'est quand même une dizaine d'années, c'est ça, les premières mobilisations. Ouais. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir dessus à Walter ou plus?
Alors, le départ, le collectif, c'était un collectif pour une réanimation à l'hôpital de Manosque. C'est pour ça que le périmètre reste quand même celui de l'hôpital de Manosque, avec les communes dont Jean-François vous a décrit tout à l'heure. Ce collectif, donc, pour les raisons qu'on connaît, s'est élargi à un collectif, pour la santé, dans le Sud 04. Donc le collectif, c'est le support officiel de ce qu'on vient de créer maintenant, avec toutes les bonnes volontés qui nous ont rejointes, qui s'est aujourd'hui traduit par la convergence urgence santé Sud 04. Voilà. Mais le collectif étant le support officiel de cette convergence.
Et aujourd'hui, donc, si on voit qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler des problèmes donc, d'accès à la santé dans la ruralité, l'existence de votre collectif est déjà très, très, très ancienne, une dizaine d'années, mais aujourd'hui, ça suffoque parce que vous dénombrez le nombre de nuits où les urgences de Manosque ont été fermées. Si vous avez les chiffres en tête ou sous les yeux, vous allez peut-être pouvoir les rappeler. Expliquez-nous aujourd'hui la situation. On a du temps, hein, donc on peut commencer par la situation générale qu'on a déjà un peu abordée, vos revendications et les choses qui sont mises en place aujourd'hui. Vous avez fait donc une pétition, vous avez fait un appel aux populations, aux élus. Vous rencontrez beaucoup les élus pour échanger. Vous êtes vraiment dans la volonté de construire. Au-delà, il n'y a pas qu'une revendication, il y a des actions aujourd'hui très concrètes mises en place. Je vous laisse un petit peu mettre en avant ce qui vous semble important, Jean-François Fellaret.
En deux mots, on est dans une situation où aujourd'hui, si on se focalise uniquement sur les fermetures des urgences de Manosque depuis 2022, On est en augmentation très très forte, notamment en 2023, où on a pratiquement touché 70% de fermeture des urgences la nuit, avec entre 25 et 27% de fermeture des urgences le jour. Donc on se trouve aujourd'hui dans une situation catastrophique parce que, à un moment donné, lorsque des citoyens ou des citoyennes de notre territoire ont besoin d'accéder à des services pour, lutter contre un grave problème de santé.
Une urgence déjà,
une urgence. Et bien, on les envoie vers le 15 qui est un service qui patauge un petit peu en ce moment. Ça ne veut pas dire que les professionnels qui sont là-dedans ne sont pas compétents, mais c'est-à-dire qu'ils sont tellement saturés qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des situations où on dit aux patients, eh bien, écoutez, allez vers les urgences de Digne, allez vers les urgences de Sisteron, qui sont quand même pas en très très bonne santé, allez vers les urgences de Pertuis, qui sont en voie de fermeture, comme celle de Manosque, allez vers Aix-en-Provence, qui est sursaturée. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on donne à ces demandeurs de soins des réponses qui ne sont pas adaptées à la gravité de leur situation. Et c'est pour ça que nous, on a interpellé le directeur général de l'ARS en lui disant depuis 2022, on aimerait bien avoir un état des effets des fermetures des urgences sur l'hôpital de Manosque sur les populations. C'est-à-dire, par rapport à un état de santé diagnostiqué, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est aggravé? Est-ce que ça s'est amplifié? Est-ce que ça a généré d'autres pathologies? Est-ce qu'il y a eu des décès? Et tout ça, bien évidemment, ils ne veulent pas nous donner les éléments parce qu'on est persuadé que nous, ils les ont. Mais s'ils les donnaient, ça serait, ça serait la catastrophe.
Ok.
Voilà. Et donc, ça, c'est par rapport aux urgences. Ensuite, bon, on est actuellement sur le bassin de santé du Sud 04 avec 12 000 citoyens et citoyennes qui n'ont pas accès à un médecin traitant. Ça, c'est quand même préoccupant. Ça fait 10 à 12%.
On a les chiffres du nombre de généralistes dans le bassin ou pas?
Ben sur notre territoire à nous, il y a à peu près, on a fait un calcul très rapide, parce que dans les revendications que l'on a, on demande à ce qu'on revienne à un service de garde qui soit mis en œuvre avec les médecins libéraux, généralistes, mais également avec les médecins du public. Et aujourd'hui, on a fait un calcul rapide, ça fait à peu près par an une semaine et demie par médecin. Donc il doit y avoir 60 à 65 médecins généralistes. Donc on ne parle pas des spécialistes, on ne parle pas de tous les autres. Mais il y a entre 55 et 60 médecins généralistes sur notre territoire. Ce qui fait que s'ils décidaient, avec les structures qu'ils ont, notamment l'Ordre des médecins, les commissions départementales qui existent dans lesquelles ces professionnels siègent, s'ils décidaient de mettre en place un service d'urgence la nuit, les fériés et les week-ends, ça ne leur coûterait qu'une semaine. Bien sûr, ils seraient rémunérés, parce que tout salaire mérite,
tout travail mérite
salaire, mais ils seraient rémunérés, mais il faut qu'on arrive à les mettre en situation de pouvoir réinstaurer un service de garde le week-end, les jours fériés et les nuits.
Bien entendu. Est-ce que vous me parliez tout à l'heure, avant d'entrer en studio, de la loi 3DS?
Oui.
Est-ce que vous pouvez essayer, donc m'en dire plus? C'est la loi santé, différenciation, décentralisation, déconcentration, voilà. Simplification.
Voilà.
3DS.
Voilà.
Que cette loi, en quelques mots? C'est une loi de 2022?
En deux mots, c'est une loi de février 2022 qui touche tout un tas de secteurs d'activité. Ça va de l'économie à l'éducation, à l'emploi, mais également et surtout à la santé. Dans cette loi 3DS, il est écrit des choses que l'on n'avait jamais lues jusqu'à maintenant, que et les citoyens, donc, et les usagers, et les collectivités territoriales, et ce concept va de la municipalité jusqu'au conseil régional, toutes ces structures-là ont autre chose à faire ou quelque chose à faire en plus que de mettre l'argent à la poche pour payer des maisons de santé libérales avec de l'argent public, des centres de soins non programmés libéraux avec de l'argent public.
C'est-à-dire, ce qui se passe à Fort-Calquier, non ?
C'est ce qui se passe à... À Fort-Calquier, il y en a une. Il va y en avoir une. Il y en a une à Manosque, une maison de santé qui a été ouverte. Il y en a une à Digne. Et voilà, nous, on dit aujourd'hui, l'argent public, c'est tellement précieux dans cette période où on réduit toutes les dépenses des municipalités, etc., et de l'État, qu'il ne faut pas qu'on dilapide l'argent public à installer des structures qui sont des structures libérales. Et nous, on préconise plutôt d'aller vers des choix qui seraient des centres de santé, comme on en a à Manosque, mais qui sont en train de d'étouffer. C'est-à-dire qu'avec le pillage qu'il y a au niveau des médecins, des spécialistes, etc., on s'aperçoit que le centre de santé CCAS de Manosque, parce que c'était un centre de santé du comité d'entreprise de DFGDF, qui est à disposition de toutes les populations, on s'aperçoit qu'avec tous ces trucs-là, on est en train de mettre en cause ces structures publiques qui étaient la propriété des collectivités territoriales, avec du personnel salarié, s'ils le veulent, au niveau de la fonction publique territoriale, etc., etc., et donc avec des médecins salariés, ce qui est une demande aussi des nouveaux médecins aujourd'hui, des jeunes qui sortent du système éducatif. Ils demandent à être, non pas à être dans des cabinets, mais à être dans des lieux où ils puissent partager avec d'autres professionnels leurs expériences, leurs difficultés, et travailler dans une conscience un petit peu collective, ce que nous on demande. Parce qu'à partir du moment où on a des médecins qui sont en capacité de pouvoir être interchangeables, c'est pas le bon mot, mais qui peuvent se remplacer, on se trouve avec une possibilité de pouvoir améliorer les conditions de travail des médecins, qu'ils soient hommes ou femmes, dans leur collectif de travail, parce qu'il faudra qu'on mette en face les effectifs qu'il nous faut avec les moyens matériels, etc. Donc toute cette approche-là aujourd'hui, elle va dans le sens de les collectivités territoriales, même si elles doivent financer un certain nombre de choses, n'ont pas que ça à faire. Par contre, elles ont à intervenir et à intervenir concrètement auprès de toutes les autorités. Ça va du ministère, du gouvernement et le ministère de la Santé jusqu'au directeur général de l'ARS à PACA, donc M. Robin, en passant par le directeur de l'ARS 04, M. Bijou Duval. C'est-à-dire on a des interventions à faire auprès de toutes ces structures-là, et les collectivités territoriales sont convaincus aujourd'hui, puisqu'on les a rencontrés quand même à plusieurs reprises, qu'effectivement, il faut qu'on aille de ce sens-là.
Alors, cette loi 3DS, là, globalement, en fait, elle donne des possibilités qui ne sont pas connues, d'ailleurs, des officiels aujourd'hui, ce qui est très dommageable, mais elle ouvre un tas de possibilités et donne des possibilités de création de structures et de tout un tas de... en dehors des moyens financiers. Donc vraiment des possibilités légales à créer ces structures, à mettre en place tout un tas de choses.
Parce que dans le cadre de la convergence urgence santé sud, vous avez eu l'occasion de rencontrer de nombreux officiels. J'ai vu passer beaucoup de comptes rendus d'officiels. Quels ont été les retours? Justement, vous disiez que les officiels ne connaissaient pas forcément cette loi 3DS. Comment s'est passé le dialogue? Comment ont été accueillies vos revendications? Est-ce qu'ils ont été à l'écoute? Est-ce qu'ils sont preneurs de solutions? Je vous laisse nous raconter un petit peu pour ceux qui n'auraient pas lu.
Disons que on a été très surpris de voir l'écoute que l'on a eue, alors à la fois par rapport aux collectivités et aux élus de terrain, de proximité, parlementaires, etc., mais également au niveau de l'ARS, avec le directeur de l'ARS 04, mais également au niveau du préfet. On a été très surpris de l'écoute, et positivement, hein, et du fait que, ils ont tous reconnu que ça n'allait pas, qu'il fallait qu'on fasse évoluer les choses, que cette espèce de, comment on a dire, de rupture avec les valeurs républicaines en matière de politique de santé, à savoir que, quand, comme sur notre territoire, on a une, la permanence de la continuité des soins qui n'est pas assurée. Parce qu'on essaye de nous faire croire que de téléphoner au 15, ça maintient la permanence, la continuité des soins. C'est faux. Avec, deuxièmement, une désertification totale de nos territoires, avec des médecins qui ne viennent plus s'installer. Avec un troisième point, c'est que, comment dire, il y a également un autre point, c'est-à-dire la comment on appelle ça, c'est la santé globale sur le territoire, elle n'est plus assurée comme il faudrait qu'elle le soit. Et ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, on est certainement dans une situation où il y a des mises en danger des populations par rapport à la casse de notre système de santé, qu'il soit public ou libéral. Donc nous on dit, voilà, il faut qu'on prenne les choses en main, parce qu'on ne va pas attendre que tout d'un coup s'améliore le système, parce que certains pensaient que quand Macron a annoncé en 2018 que c'était la fin du numerus clausus, tout allait s'arranger. Non, on s'aperçoit que depuis 2018, on n'a pas donné les moyens aux universités, et ça c'est des propositions que l'on fait nous, de former 30% de médecins et de spécialistes en plus que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Il n'y a qu'à cette condition-là qu'on pourra permettre de faire face aux besoins croissants des populations en matière d'accès à la santé. On s'aperçoit également qu'au niveau des universités, on n'a pas pris en compte, enfin le gouvernement n'a pas permis de prendre en compte cette nécessaire augmentation du nombre de formés, que ce soit les médecins, les spécialistes ou les infirmiers, infirmières, les aides-soignantes, etc. Parce qu'on pleurniche, tout le monde pleurniche en disant « Ah ouais, mais vous comprenez, ils veulent plus, machin. » Non, mais si les gens, si les jeunes qui sortent de nos systèmes de formation, qu'ils soient médecins, etc., ne viennent pas s'installer sur nos territoires, c'est pas parce que les territoires ne sont pas attractifs. C'est parce que le système de santé qu'il y a sur ces territoires n'est pas attractif. Aujourd'hui, un jeune ou une jeune femme qui veut s'installer en tant que médecin généraliste ou en tant que spécialiste sur l'hôpital de Manon, il n'y en a aucun qui va venir. Un hôpital qui n'a pas de service de réanimation, qui a un service d'urgence qui bat de l'aile complètement et que, à mon avis, ils avaient l'intention de fermer si on n'avait pas réagi comme on l'a fait. Eh bien, comment voulez-vous que des jeunes viennent s'installer dans un truc qu'on peut considérer comme étant pratiquement en fin de vie ? Ils ne vont pas venir s'installer.
En décrépitude, oui, tout
voilà.
À fait.
Donc, ce n'est pas le territoire qui n'est pas attractif. Voilà. Ce sont les structures de santé et dans l'hôpital public de Manosque, qui ne sont pas attractifs et qui font que les gens ne viennent pas s'installer ici. Alors, on pourra faire tout un tas de vidéos pour présenter le ciel, la neige, la mer, la montagne, tout ça. Tout ça, c'est que dalle, ça ne sert absolument à rien. Ce qu'il faut, c'est qu'à nouveau, ces structures-là soient attractives pour les jeunes qui sortent des systèmes de formation. Et surtout, on l'a déjà dit, qu'on en forme 30% au moins en plus tous les ans. Il n'y a que comme ça qu'on arrive d'ici 7-8 ans ou 10 ans à avoir un système de santé qui fonctionne correctement. Et si on ne fait pas cet effort-là, et ça demande du courage politique, ce que n'a pas le gouvernement en place aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut avoir du courage politique pour dire, on donne aux facultés les moyens de former des nouveaux médecins, généralistes, spécialistes, etc., des infirmiers, des infirmières, etc. Donc, il faut avoir du courage politique, parce qu'il faut se donner les moyens derrière. Deuxièmement, il faut avoir du courage politique quand on décrète que dans les territoires comme les nôtres, il y a ne pas avoir d'urgence, ne pas avoir de garde, ne pas avoir de SOS médecin, c'est des mises en danger des populations. Et donc, il faut que politiquement, ils aient le courage de remettre en place toutes ces choses-là. Qu'on n'ait pas le courage politique de dire aujourd'hui, on est en période de déficit total. Eh bien, les jeunes qui sortent du système éducatif, à qui la République a payé leur formation, même si c'est améliorable, hein, mais, et qu'on leur dise, eh bien, écoutez, vous devez avoir un renvoi d'ascenseur vis-à-vis de la République aujourd'hui. On vous demande de vous installer pour 3 ou 5 ans dans tel endroit. Et ensuite, si vous voulez aller vous installer sur la Canebière, sur la promenade des Anglais ou je ne sais pas où, eh bien, vous irez après. Mais en tout état de cause, d'abord, vous renvoyez à la République ce qu'elle vous a octroyé en matière de formation. Donc, ces quelques dispositions qu'on avance maintenant depuis des mois et des mois, et qui commence aujourd'hui à avoir un écho. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on entend parler de ça. Mais oui, il faut prendre des dispositions. Il y a des pays comme le Canada, comme l'Allemagne, comme les pays nordiques qui ont décidé de faire de cette façon-là. Et moi, à mon avis, ce n'est pas une privation de liberté des médecins que de leur dire, eh bien, allez vous installer pendant quelques années à tel endroit, après vous ferez ce que vous voulez. Parce que quand on sort, quand on travaille à EDF, quand on travaille à l'éducation nationale, quand on travaille
l'éducation,
dans tout un tas de choses,
on
ne vous demande pas où c'est que vous allez. Vous allez là où on a besoin de vous. Et moi, je ne vois pas pourquoi les médecins, qu'ils soient spécialistes ou généralistes, ils auraient une espèce de statut supérieur qui ne les oblige pas à rendre ce service à la République.
Ok, bon, sur ces quelques réflexions et débuts de propositions, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. On a donné beaucoup d'informations. Donc c'est Stromae, santé, du coup. Et on revient après pour du coup les actions que vous mettez en place, le calendrier, les structures qui vous ont rejoint aussi. À tout de suite.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, batère, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Célèbre pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Et je me retrouve en studio à Manosque aujourd'hui avec Convergence Urgence Santé Sud 04, Monsieur Pellaret, Rizaliti. Donc nous parlions donc des problèmes d'accès à la santé dans les départements ruraux. Et donc votre collectif aujourd'hui a été rejoint, vous êtes une coalition de collectifs, hein, Walter,
convergence de plusieurs...
collectif. Si vous voulez citer les autres collectifs, voilà. Pour qu'on arrive à identifier un petit peu et puis avoir une idée aussi de la façon dont vous mobilisez, combien vous êtes de membres actifs ou pas, et quelles sont les structures aujourd'hui politiques ou non qui vous épaulent, enfin qui vous et vas-y, à qui vous vas-y. Collaborez.
Ouais, bon, après, vas-y.
Ouais. Bon, d'abord, à l'origine, c'est le collectif Santé Haute-Provence. Ensuite, on a un autre collectif qui était, un petit peu un collectif monté par les ex-gilets jaunes qui s'étaient regroupés autour de ce problème de santé. Ensuite, il y a en partie politique, il y a la France Insoumise, le PCF, le PRCF, donc qui est un parti de la refondation communiste en France, qui est un nouveau parti qui existe depuis maintenant 3-4 ans et qui travaille avec nous sur ce champ-là. Ensuite, on a, que je n'en oublie pas, il y a des syndicats tels que la CGT, mais la CGT dans toutes ses composantes, c'est-à-dire depuis l'UD 04 en passant par la structure du coin. Ensuite, il y a d'autres contacts qu'on a eus, mais qui n'ont pas été fructueux par rapport à d'autres organisations, ce qu'on regrette, mais bon, écoute, on y arrivera, je pense. Ensuite, il y a des associations, Éco-Raison, il y a l'association de défense de l'EHPAD de Bannon. Ouais. Qui est en grave danger lui aussi, parce que on ne sait pas trop un petit peu ce qu'ils veulent faire en proposant un chantier de 2 ans où il faudrait faire partir les résidents vers d'autres structures d'accueil. Quand on a 80, 90 ans, qu'on n'est pas forcément en bon état de santé, à mon avis, c'est un très mauvais choix. Et ce collectif est en train de se battre pour qu'on puisse à la fois aménager et améliorer l'accueil des résidents dans leur structure, mais également ne pas les mettre dans des situations où on serait obligé de les éloigner de leur famille, de leur environnement et pas de Bannon dans lequel ils avaient construit des choses. Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres associations qui se rapprochent de nous pour travailler là-dessus. On est en train de travailler aussi, ouais, parce qu'au niveau des participants, il y a les collectifs territoriale aussi, qui de plus en plus, bon, avec des maires de communes qui ont rejoint le collectif, avec une communauté de communes Haute-Provence, Pays de Bannon, qu'on a rencontré et qui nous a confirmé son total soutien avec l'ensemble des communes, à qui on a proposé également de traduire leur position par rapport à ça à travers des résolutions, des motions, qui seraient en capacité de prendre aussi bien au niveau communal qu'au niveau communauté de communes. On doit rencontrer, on va essayer de rencontrer la DLVA, qui est quand même le principe, avec beaucoup d'élus qui nous rejoignent en tant que maire, en tant que collectivité territoriale. Voilà, donc ça fait à peu près, c'est un éventail assez large, sans compter ceux qui s'engagent en tant que citoyens. Par exemple, on a des professionnels de santé qui s'engagent avec nous sur ces problématiques-là. On est en train de travailler en direction des pompiers pour faire émerger quand même de leur part une expression.
Parce que les pompiers par eux-mêmes ne trouvaient pas... qu'est-ce qu'il y en est des... Justement, j'allais en venir... On reviendra un petit peu sur l'accueil. On avait entamé l'accueil par les élus de votre mobilisation et les retours que vous avez eus. Ouais. Et vous nous direz qu'elles ont été avancées. Mais ce que j'allais dire, c'était au niveau des professionnels de santé, du secours et des urgences. Il n'y a pas eu, de leur part, une...
Ben, disons que
une alerte, enfin
si pas en notre direction, mais simplement on sait très bien que cette difficulté sur le manque de médecins, donc les fermetures à répétition des urgences sur l'hôpital de Manosque aggrave énormément les conditions de travail de ces professionnels, que ce soit les pompiers, que ce soit la sécurité civile, que ce soit la protection civile. Donc toutes ces populations-là sont mises en grand danger et en grande difficulté par rapport à l'exercice de leur métier. Et ça a forcément des répercussions, non pas à cause de leur manque de professionnalisme ou quoi que ce soit, au contraire, ce sont d'excellents professionnels, mais ils ne peuvent plus exercer leur métier dans des conditions acceptables parce qu'on a, on a dégradé très fortement un certain nombre de structures, notamment, par exemple le SAMU également, qui est en situation extrêmement délicate chaque fois qu'il y a des problèmes qui se passent sur le territoire. Parce qu'on ne peut plus accueillir les patients directement à l'hôpital de Manosque. On les parachute à qui
Sisteron, Gap, Aix, Pertuis,
voilà, c'est ça. Ouais.
Bien sûr.
Donc tout ça, ça pose problème. Ensuite, deuxièmement, vous disiez là tout à l'heure que les rencontres que l'on a eues, alors on ne va pas se répéter, mais avec les collectivités territoriales, les parlementaires, les mairies, préfectures, etc., on a quand même avancé sur pas mal de choses, notamment sur le fait que avec les parlementaires, on va essayer de construire alors une action en direction de la ministre de la Santé Vautrin et de son ministre délégué Monsieur Valletoux, me semble-t-il, à la Santé, de les rencontrer pour qu'on parle de ce problème de Manosque, parce que on est le fait de ne pas en avoir parlé comme il fallait depuis tant de temps, on s'est rendu compte que on était certainement dans une situation des plus compliquées au niveau des territoires ruraux au niveau national. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup, à part celles qui ont été fermées directement, les urgences et dont on ne parle plus, mais toutes les autres urgences qui avaient des fermetures ont fait partie du peloton de tête du nombre de jours et de nuits fermées. Donc il faut qu'on en parle, et ça on en a parlé au préfet, et effectivement il était sensible sur ce point-là, ainsi qu'aux collectivités territoriales. Donc ils ont une délégation vis-à-vis du gouvernement et de la ministre de la Santé. Ensuite, on travaille à la construction d'une initiative avec le préfet, avec lequel on a échangé, sur lequel on a eu des éléments très intéressants, avec la mise en place d'une table ronde dans laquelle, pour une fois, sur notre territoire, on associerait à la fois les professionnels de santé, les collectivités territoriales, les associations, comme le prévoit la loi de 2022 d'ailleurs. Hein, elle prévoit que dans tous ces problèmes de santé, il faut y associer et les collectivités territoriales, mais également les usagers de la santé, qu'elles soient publiques ou libérales. Donc on travaille à cette construction avec monsieur le préfet
Chapuis.
Voilà. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on va essayer de travailler avec l'ARS, parce qu'on a échangé avec le directeur Bijou Duval de l'ARS 04 sur le fait que nous, on regrettait que certaines structures des commissions départementales, etc., on ne les entend pas sur un problème pareil. Alors, on ne sait pas ce qui se passe. En tout état de cause, nous, on lui a demandé de tout faire pour réactiver ces commissions départementales, qui ont des commissions départementales sur la CPTS, communauté professionnelle territoriale de santé, les conseils territoriaux de santé, etc. Il faut qu'on les réanime. Hein, c'est le mot quand même, et qu'on redonne dans son contenu, dans ses membres, un peu plus de représentation et des associations et des usagers et des collectivités territoriales. Et donc, on a dit à monsieur Bijou Duval que nous, on était tout à fait volontaires pour travailler dans ces commissions et leur redonner un petit peu de dynamique, ce qui n'a pas l'air d'être le cas jusqu'à maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme avancée ? Bon, on a eu la prise en compte, effectivement, mais ça nous paraît intéressant, du fait qu'il faudrait réinstaller un service de garde permanent qui permet de pouvoir téléphoner et appeler un médecin la nuit, le week-end et les jours fériés. Voilà. Donc, et a priori, ça, on ne s'est pas fait, comme on dit vulgairement, envoyer au fond des filets par rapport à une telle proposition. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde mesure qu'il y a, un problème sur ce truc-là. C'est-à-dire que c'est insupportable de trimballer des gens dans des camions de pompiers, dans des SAMU, pour aller de Digne à Pertuis, à Sisteron, à Aix, etc., etc., voire de les faire partir avec leur véhicule personnel.
Oui, oui.
Donc c'est extrêmement préoccupant. Parce que là, parmi tout ça, depuis maintenant un an, deux ans, combien de pertes de chance ? C'est-à-dire, quand on dit perte de chance, nous, ce n'est pas de prise en compte de la problématique santé, c'est une aggravation, etc. Voire, au bout du bout, avec des décès certainement liés à ce dysfonctionnement du service public de santé sur notre territoire. Un autre point qui a été sorti aussi par l'Association des maires ruraux du National, dans les territoires ruraux comme les nôtres aujourd'hui, on a deux années de vie en moins par rapport au territoire urbain où il y a encore une pas trop mauvaise, même si ça commence à se dégrader sérieusement, moins mauvaise, oui, moins mauvaise que ici sur nos territoires. On perd deux ans de notre vie. C'est pas rien.
Walter, vous avez quelque chose à ajouter sur les actions de convergence
Non, il se trouve qu'effectivement, toutes les personnes qu'on a rencontrées, tous les services officiels rencontrés, il se trouve que les propositions qu'on a et qui sont écrites noir sur blanc, elles sont reconnues. Personne ne nous a dit qu'on était à côté de la plaque sur ces propositions. Bien au contraire. Sauf que, bon, nous, le constat qu'on fait, c'est que tout le monde...
constate.
Les analyses sont faites. Hein. Tout le monde connaît les analyses. Tout le monde connaît les remèdes. Et rien ne se fait. Donc, aujourd'hui, nous, on passe à la vitesse supérieure. Et aujourd'hui, il faut faire. Les moyens pour faire, ils sont là. Ils sont là. Il manque juste, comme le disait... mon collègue tout à l'heure, il suffit juste de la volonté politique et mettre en œuvre ces propositions. Les propositions, on les retrouve. Je fais aussi un petit appel du pied. On a créé un site qui s'appelle Collectif Santé Haute-Provence, sur lequel on met nos comptes rendus, on met aussi ce qu'on fait. Donc ce site, je peux donner l'adresse du site.
Tout à fait, on y vient en général en fin d'émission, on répète bien, on va le répéter plusieurs fois. Non, mais on va le répéter plusieurs fois,
donc,
justement.
Je vais le faire tout de suite, comme
justement,
ça.
Justement, une première
direct.
Fois.
D'ailleurs, sur ce site, on a le nombre de jours de fermeture des urgences, avec un compteur qui se met à jour automatiquement. Donc, le site, c'est cs-hp.fr. Voilà.
Ok, www.cs-hp.fr.
Voilà, en tapant cs-hp.fr. Surtout pas oublier le .fr, sinon on tombe sur des CSHP qui sont pas le nôtre.
Okay.
Mais en tapant ça, on tombe sur le site et on y met nos comptes rendus et ce qu'on y fait et les vocations de ce collectif.
C'est vrai que cette émission est très dense. Vous avez donné beaucoup de chiffres, beaucoup de propositions, donc c'est bien de pouvoir les retrouver à l'écrit. On a la chance à Fréquence Mistral de recevoir directement dans notre mail toutes ces données-là. Pour les auditeurs et les auditrices qui seraient intéressés, cs-hp.fr.
Voilà.
Et donc les prochaines actions... Alors oui, une question d'abord. Vous dites qu'il manque aujourd'hui, donc qu'il faut la volonté politique. Est-ce qu'il y a d'autres blocages que vous identifiez face aux inerties aujourd'hui ? Parce que si le constat est fait, ces analyses sont faites et qu'on n'agit pas, enfin c'est... Bon, question financière d'un côté peut-être. Bon, après ce sont des choix, mais vous voyez d'autres choses ou...
Mais on nous a souvent posé la problématique du coût. On a rencontré l'ARS, il n'y a aucun problème d'argent. Donc, quand on nous dit que ça dysfonctionne quelque part, soit on nous ment, et auquel cas on arrivera bien à trouver où est-ce que se situent les menteurs. Soit il y a des choix qui sont faits qui ne sont pas des choix républicains dans le cadre d'une prise en compte améliorée et égalitaire de toutes et tous à la santé et aux soins sur notre territoire. parce qu'on a donné d'autres priorités qui seraient, par exemple, la rentabilité d'un secteur comme la santé, qui dans le secteur public aujourd'hui ne convient plus aux évolutions de nos sociétés ultralibérales qui font qu'aujourd'hui, la santé, c'est 370-380 milliards d'euros, tout compris. Et il est évident qu'il y a des appétits féroces autour de cette somme dans le secteur de la finance, dans le secteur industriel, dans tout un tas de secteurs. Donc il faut qu'on nous dise ce qu'il en est. D'un côté, l'ARS nous dit qu'il n'y a pas de problème de sous, entre guillemets. Et de l'autre côté, on s'aperçoit qu'on ne se donne pas les moyens d'améliorer l'accès à la santé, même si on est convaincu que ça ne sera pas avec un claquement de doigts qu'on va résoudre le problème des 37 ou 38 ans de numerus clausus qui ont fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec 40 ou 50% de médecins en moins sur notre territoire. Mais il faut qu'on ait la volonté politique d'aller améliorer ce truc-là. Et c'est pour ça qu'on fait ces propositions, aussi bien au niveau de la formation des futurs médecins, spécialistes, etc., mais également sur le fait qu'il faut que chacun contribue à améliorer petit à petit l'accès à la santé et aux soins avec des affectations, avec une remise en cause. Voilà, une construction pertinente par rapport à la situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, il y a des urgences. Enfin, je ne parle pas des urgences de l'hôpital de Manosque. Il y a des urgences dans notre société en matière d'accès à la santé et aux soins. Eh bien, il faut que le pouvoir politique prenne la décision de se donner les moyens de l'améliorer. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les parlementaires, parce que c'est eux qui font les lois. Et je pense qu'on aura besoin de lois au niveau national pour améliorer toutes ces choses-là.
Je voulais rajouter quelque chose. Effectivement, c'est que aujourd'hui, on est en droit de penser que, avec les constats qui sont faits, avec les propositions qu'on fait et qui sont partagées par tout le monde, on est en droit de penser que c'est bien. Quand on nous dit que ce n'est pas un problème de finances, on est en droit de penser que ce sont des décisions politiques et des orientations politiques qui font qu'on est dans ce marasme au niveau des soins. Donc aujourd'hui, on peut largement penser que c'est une volonté politique de ne pas aller vers des soins ouverts à tous et plutôt de s'orienter vers la privatisation des soins. Donc voilà.
Mais paradoxalement, vous soulignez... Pour se faire l'avocat du diable, hein, vous dites l'ARS dit qu'il n'y a pas forcément de problème d'argent dans ces histoires de santé. De l'autre, ce qu'on entend quotidiennement à la radio depuis le Covid, c'est fermeture de lit. Et ce qui a été dénoncé pendant la période de Covid, c'est de la mise en lumière justement de ces fermetures de lit qui s'étaient faites silencieusement. Et on s'en est rendu compte au moment du Covid, en fait.
Absolument.
Mais du coup, quels sont vos commentaires sur ce...
Nos commentaires, c'est que globalement, c'était quelque chose de prévisible, c'est-à-dire que un système, un fonctionnement normal, on arrive à compenser souvent les choix politiques qui sont faits à travers des combinaisons de tout un tas de choses. Par exemple, aujourd'hui, on demande aux infirmières de faire un boulot de médecin, aux aides-soignantes de faire un boulot d'infirmière, aux agents de service de faire un boulot d'aide-soignante, etc. On s'aperçoit qu'il y a tout un tas de dispositions qui sont prises, qui sont des emplâtres sur des jambes de bois, c'est-à-dire on essaye de nous faire croire que tout est fait pour améliorer l'accès à la santé égalitaire de toutes et tous sur le territoire, et on s'aperçoit que concrètement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire toutes les propositions qui ont été faites, par exemple, je vais prendre un truc, le Conseil national de la refondation santé qu'a lancé Macron en 2022, fin 2022, début 2023. Ça a été uniquement qu'une espèce de liste à la Prévert où on proposait tout un tas de trucs qui n'ont servi absolument à rien et qui n'ont en rien amélioré l'accès à la santé et aux soins. Nous, on n'est pas extrémistes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que du jour au lendemain, on se retrouve dans une situation confortable où tout le monde est bien soigné. Tout le monde... Non, nous, ce qu'on dit, il faut qu'on fasse acte de prendre en compte des décisions politiques et qu'on les mette en œuvre et non pas des espèces de d'ersatz, prise en compte des besoins de santé, par exemple, mettre les espèces de cellules qu'on met en place pour faire des consultations à distance avec...
De la téléconsultation.
Voilà, donc nous, on dit, non, il faut arrêter avec les, comment dire, les fausses bonnes solutions. Mmh. Tout ça, ça sert à... Enfin, je ne dis pas que ça ne sert à rien. La téléconsultation, pourquoi pas. Mais il ne faut pas qu'on en fasse un outil qui va permettre de mieux soigner les Françaises et les Français.
Ça peut dépanner en quelque sorte, voilà, mais c'est pas un modèle de soins. Et logiquement, surtout quand il y a besoin d'être examiné. Je vous propose de refaire une petite pause musicale. On reviendra dans un dernier temps. Alors, je vous ai trouvé Dr. Gray, Eminem et Scalar Gray qui chantent I Need a Doctor.
Ouais.
Inside the booth, told you, like smoke with the friend. friends. Some of them I put on, but they just left. They said they was riding to the death. But where the fuck are they now? Now that I need them, I don't see none of them. All I see is Slim. Fuck all you fair weather friends. All I need is him. Fucking backstabbers. When the chips were down, you just laughed at us. Now you about to feel the fucking wrath of aftermath, faggots. You gon' see us in our lab jackets and ask where the fuck we been. You can kiss my indecisive ass. Crack maggots and the crackers ass. Lil' Cracker Jack beat, making whack ass. Backwards producers, I'm back, bastards. One more CD and then I'm packing up my bags. And as I'm leaving, I guarantee they'll scream Trey, don't leave us like that, man. Cause I'm about to
cette dernière partie d'émission avec Convergence Urgence Santé Sud 04 qui viennent donc nous présenter les revendications de leur collectif en Convergence concernant les carences en termes de santé dans les Alpes du Sud, dans le sud du 04. Je vous laisse rappeler brièvement vos revendications, vos actions, les résultats que vous avez obtenus ou ce vers quoi vous tendez, les questions calendaires, l'agenda et comment on peut vous retrouver sur le net.
Alors, bon, je sais pas si c'est des revendications, c'est des propositions que l'on a fait, nous, pour améliorer l'accès à la santé et aux soins des populations de façon égalitaire sur notre territoire. Voilà, donc elles sont simples, c'est de l'ordre de 3 ou 4 trucs. Il n'y a plus de numerus clausus, très bien, mais la suppression du numerus clausus ne serait qu'un trompe-l'œil si on en restait là, c'est-à-dire si la fin du numerus clausus ne marche pas avec augmentation de 30% du recrutement des médecins, spécialistes, etc., dans les facultés, et donner les moyens aux facultés. Si on ne fait pas ça, on nous a pris pour des imbéciles, en nous disant que le numerus clausus était supprimé. Si on ne met pas en place au niveau national un dispositif d'affectation des jeunes qui sortent, hommes ou femmes, qui sortent du système éducatif, santé, infirmières, etc., les affecter en priorité dans les endroits où on a besoin d'eux, sur les territoires, mais également sur les hôpitaux, si on ne fait pas ça, on nous prend pour des imbéciles. Troisièmement, si on ne fait pas, on ne remet pas en place, on revient sur le local, là, si on ne remet pas en place un système de garde à disposition de toutes les populations, pour la nuit, le jour, le week-end, les fériés, etc., etc. Si on ne remet pas en place ce système de garde, on nous prend pour des imbéciles également. Parce que l'ARS nous a dit très clairement que ce n'était pas un problème de sous. Monsieur le préfet également. Donc, s'il n'y a pas de problème de sous, on met en place ce qu'il faut pour venir un petit peu en aide aux populations. Et tout ça, à notre sens, convergeant vers une chose sur et que comment dire qu'édicte en permanence la loi de 2022 3DS sur l'accès égalitaire de toutes et de tous à la santé et aux soins, la non mise en danger des populations par rapport à cet accès qui n'est pas respecté, fait que on mette un terme à la rupture de la continuité de la permanence des soins, tout ça. Toutes les propositions qu'on fait convergent à ces objectifs qui sont retenus dans la loi de 2022. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on a comme élément concret sur les choses à mettre en perspective? C'est, ben, on l'a déjà dit, mais c'est de construire une délégation qui va aller rencontrer la ministre de la Santé, Vautrin, et son ministre adjoint de la Santé, Monsieur Valletoux. Il faut qu'on les rencontre avec les parlementaires, les citoyens et les collectivités territoriales. Donc ensuite, troisième point, on a en perspective pour la première quinzaine d'avril, Il faut qu'on travaille avec tous ceux qui sont à la convergence, une action forte sur notre territoire qui associera à la fois les organisations syndicales, les partis qui sont preneurs de cette démarche-là, pour qu'on puisse continuer à mettre de la pression, à la fois au niveau du gouvernement, mais également au niveau des structures de l'ARS locale et régionale, afin qu'on puisse donner du contenu à cette revendication, qui est une revendication vitale. Parce qu'on y revient là-dessus, mais on est persuadé que ce dysfonctionnement, enfin cette dégradation systémique, on pourrait dire même, de l'accès à la santé et aux soins sur notre territoire, à coûter des vies aux populations du 04.
Et vous n'avez aucune transparence des chiffres. L'unique chiffre que vous avez pu attester est celui de deux ans de durée de vie en moyenne dans les territoires ruraux. Mais sinon, vous êtes en demande des chiffres aussi également. Ça fait partie de...
On les a demandés à M. Robin, le directeur général de l'ARS 04. Il y a maintenant un mois et demi, notre lettre est restée fin de non-recevoir. Et on réinsiste sur le fait que les chiffres, ils les ont. C'est quand même la cathédrale des statistiques qui existent en matière de santé sur notre territoire. Ils nous sortent des chiffres de partout. Et là, ils ne seraient pas capables de sortir les chiffres liés au dysfonctionnement de notre service de santé. On n'y croit pas.
Il me semble aussi que Léo Valter a porté un peu ses questions la semaine dernière au Parlement dans une intervention.
Ben, nous, on est très satisfaits de ce qu'a fait le député de la deuxième circonscription, Léo Valter, parce que ça va dans le cadre de ses fonctions de député, de faire des questions écrites, des questions orales, et il le partage avec nous, ça ne sera pas avec ça qu'on arrivera à déboucher sur, ou pas uniquement avec ça, ça fait partie de la construction.
La visibilité, oui.
C'est-à-dire que lui, il ne se loupe pas, c'est-à-dire ainsi que, comment il s'appelle, Jean-Yves Roux, le sénateur, sur ces problèmes de santé, de territoire, etc., etc. Donc nous, on dit très bien, mais il faut qu'on passe l'échelon supérieur afin de pouvoir rencontrer le ministre de la Santé et de lui parler de ces problèmes-là et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement.
Valter, je vous laisse rappeler, donc il y a une pétition qui est donc axée pour tous et toutes à une santé et des soins de qualité et de proximité. Qu'on peut retrouver en ligne.
En ligne.
Bon, le lien est un peu compliqué, donc peut-être qu'en tapant le titre, ou sinon le site. Je vous laisse nous donner comment vous contacter et quelles sont les prochaines actions, vos prochains objectifs et prochaines actions, ou si les sympathisants veulent vous rejoindre.
Donc la pétition, actuellement, on a recueilli un millier de signatures. Elle continue à vivre, cette pétition, donc vous pouvez la retrouver, il y a les liens sur le site. Sont peut-être un peu compliqués, on essayera de rendre ça un petit peu plus lisible, sachant qu'on n'est pas des professionnels informatiques. Donc,
c'est un appel, vous cherchez quelqu'un pour gérer votre site internet, c'est ça? Vous
pouvez... Mais oui.
Oui, on est ouvert à toutes. D'ailleurs, sur le site, vous pouvez vous exprimer et nous interpeller, nous envoyer des messages à partir du site. Ça, c'est un peu plus simple que le reste. Mais enfin, on y trouve quand même pas mal de choses. On va y trouver aussi bientôt les comptes rendus des rencontres qui ont été faites récemment. Et ces comptes rendus, d'ailleurs, qui ont été envoyés et adressés aux intéressés, donc approuvés par les intéressés, puisqu'il n'y a pas eu de remarques. On va mettre en place, et donc on informera aussi, on mettra des choses sur le site à l'avenir, dès début avril, sur cette rencontre. Enfin, on va essayer de voir quelle sera la formule la mieux adaptée. En tout cas, on essaye de réunir le plus de monde possible pour porter haut et fort toutes nos revendications qui, je le rappelle, encore une fois, ne sont pas des revendications farfelues puisqu'elles sont... pratiquement adoubé par toutes les instances qu'on a rencontrées.
On répète www.cs-hp.fr. Ça, c'est le site où on peut retrouver donc les comptes rendus, le nombre de nuits qui défilent où les urgences sont fermées. Et si on veut rejoindre plus activement, donc on peut vous écrire sur le site, c'est ça? Est-ce que vous fonctionnez comment? Vous faites des réunions?
On essaie de faire des réunions en fonction de l'actualité, mais en général, c'est tous les lundis, chaque mois. Et après, on a des... Par exemple, quand on était dans la période de rencontres avec tout un tas d'interlocuteurs, eh bien, on a accéléré les rencontres, on les a dédoublées un petit peu pour permettre...
Sinon, globalement, c'est la réunion, elle est calée. Le deuxième lundi de chaque mois, c'est la réunion, donc elle est programmée, celle-là.
La prochaine sera le... Le 13.
Le 13
Non, le 11. Le 11, pardon. Le 11.
Donc c'est ouvert
à tout le monde.
À tout le monde, c'est
voilà.
Où
à anciennement l'école des métiers EDF de Sainte-Tulle, qui est le centre Roguin maintenant, qui est, sur okay. lequel il y a le centre Roguin, et sur une salle que nous mettent gentiment à disposition la structure pour faire nos réunions. C'est à 17h30 non. le lundi prochain, c'est-à-dire le 11 mars à Sainte-Tulle, à l'ancienne école des métiers EDF de Sainte-Tulle. Ça ne sera pas le mot de la fin parce qu'on est en pleine construction de tout un tas de trucs. Donc
et qu'on va se revoir.
Et qu'on va se revoir. Mais simplement, c'est se dire que la richesse collective et l'intelligence collective sont des choses qui nous ont poussé là, ces derniers mois et ces dernières années à affiner nos réflexions, nos analyses, nos recherches. Et en définitive, on s'aperçoit qu'on avait pris le pas trop mauvais chemin, puisque à travers notamment la loi de 2022 qu'on a réussi à débusquer et qu'on a réussi à faire comprendre et non pas à critiquer et qui, je sais pas qui, les élus, les autres, qui avaient peut-être pas, parce qu'ils ont tellement de boulot à faire à ces élus qu'il est normal que de temps en temps, et puis ils sont pas informés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu d'informations comme quoi cette loi était sortie. Donc je pense qu'on a bien avancé et on a établi de très bonnes relations avec toutes ces structures, les parlementaires, les élus de municipaux, départementaux, régionaux. Donc tout ça, je pense que ça produit enfin ses effets et qu'on est en train d'avancer sur ce qu'on pourra peut-être qualifier un jour d'une démarche cohérente et gagnante, puisqu'on est parti pour améliorer l'accès à la santé aux soins et éviter de perdre de nos concitoyens en cours de route.
Et surtout, le tour de force de ce projet de table ronde avec aussi bien les officiels que les professionnels de santé, que les associations et les collectifs, ce serait... On ne peut plus productif, on vous le souhaite, on reste en contact, donc on répète la prochaine réunion de votre collectif en convergence est le 11 mars à 17h30 à Sainte-Tulle. Plus d'informations donc sur le site où vous trouverez les contacts, le site www.cs-hp.fr, et sinon ce sera à la mi-avril pour une grosse mobilisation.
Ouais.
En cours d'organisation, donc les détails à suivre.
Ouais, ouais.
Et on mettra bien sûr toutes ces références sur le site de Fréquence Mistral, bien entendu, et à très vite.
Merci
à vous de nous avoir
l'accueil et pour la prise en compte de toutes ces informations, parce que c'est quand même important qu'on puisse mettre tout ça à disposition et des populations, donc des usagers du service public et libéral de santé. Et donc, je pense qu'on vous remercie énormément.
Et bien, pas de soucis, on se laisse avec Bella Ciao, du coup.
Et voilà.
Allons-y.
Oui.
Mi sono alzato, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno
tutti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per...